9h21 minutes. Nous sommes en 2019. Comment se fait-il qu'on n'est pas encore capable de voter électroniquement? C'est dans l'air, on en parle, on fait des tests. Aux États-Unis, on est allé plus loin. On l'a même constaté. Il y a eu des endroits où on pouvait voter par le vote électronique. Comment se fait-il qu'il y a tant de problèmes? Mais on va plus loin que ça. On disait également au cours des derniers jours que les partis politiques ne maîtrisent pas encore cet outil essentiel qui est la communication électronique. On est capable de payer pour une boîte de gomme avec notre téléphone portable directement. On a des codes barres.
On peut voter pour occupation double.
On peut voter pour occupation, à condition de payer quand même.
Oui, mais quand même.
Combien?
On peut le faire.
Je 99 cents. Moi, je paierais, Thérèse.
Je pense que c'est gratuit à certains moments. Là.
Thérèse, je paierais, moi, lundi, pour aller voter électroniquement. Je paierais 99 cents pour aller voter. Comment se fait-il? Notre spécialiste en cybersécurité chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, Steve Waterhouse, a peut-être une réponse. Steve, bonjour.
Bonjour Paul, bonjour Thérèse. Bonjour.
Comment se fait-il que la politique, et en particulier le merveilleux processus démocratique chez nous de l'élection générale, ne nous permet pas encore de presser sur un bouton puis donner notre appui à un candidat ou une candidate?
Bien, on verrait tout de suite que c'est peut-être un problème, une problématique de contre-vérification, autrement dit un problème d'intégrité pour éviter la manipulation du vote. Fait que la première raison pourquoi on continue à voter en papier, c'est parce que justement, on met vraiment tout le monde, on se fait authentifier positivement par les agents qui sont présents, qui sont dûment assermentés, et après coup, on se présente dans l'isoloir, on fait un X, et le processus est fait. Mais la manière électronique de l'apporter, c'est qu'il y a toutes ces étapes de vérification, quoique, pas impossible, mais pour ce faire, il faut garantir que la personne qui est derrière l'appareil pour faire le vote est la personne qui est bien représentée. Fait que, donc, pour faire un vote avec les émissions de variété, ben, c'est un vote qui est libre, puis personne ne vérifie c'est qui a voté, dans le fond. Alors qu'un processus électoral, ben, on veut s'assurer que c'est un citoyen dûment enregistré.
Oui, mais ça, en même temps, il y a quelque chose d'un peu triste dans ce que vous dites, Steve, c'est que compte tenu de la vulnérabilité de nos systèmes de communication électronique, vous êtes en train de dire que ce processus d'un vote électronique ne garantirait pas à 100% ce vote ne pourrait pas être manipulé.
C'est le fondement de l'enjeu, Paul.
C'est très désolant d'apprendre ça.
Ben oui, mais ailleurs dans le monde, si on prend l'Estonie, qui est un peu le jalon pour mesurer les systèmes de votation électronique, ben l'Estonie, eux autres, ça fait quand même une douzaine d'années là, qu'ils s'en servent et ça n'a pas augmenté beaucoup le vote pour dire que tout le monde participe dans le pays. Il veut dire, avec le temps, ils ont su parfaire la solution. Le code, il a été démontré comme un code ouvert, c'est-à-dire que n'importe quel programmeur ou spécialiste en cybersécurité peut regarder le code et commenter s'il est vulnérable ou pas, ce que les compagnies nord-américaines veulent pas faire. Donc, ils gardent la recette secrète juste pour eux autres. Ouais. Et c'est là que ça anime tout le cynisme et que s'il y a manipulation du vote, bien, à ce moment-là, on se repointe vers les compagnies et on dit, mais vous êtes complices.
Est-ce que c'est pas la même chose, Steve, pour quand vient le temps de devenir candidat ou candidate d'un parti?
Oui, exactement. Les plateformes web, elles sont pas tout à fait à point pour être capables d'assurer justement cette confidentialité, mais aussi l'intégrité du vote.
Ben, je trouve ça un peu désolant. Je trouve ça un peu désolant. Évidemment, on se remet à peine de la mésaventure, plus que mésaventure. Moi, je dirais que c'est un drame épouvantable, ce qui est survenu chez Desjardins. Mais j'ai de la difficulté, Steve, à ne pas concevoir qu'on puisse passer directement à un vote où vous pesez sur le bouton. Si vous avez fait une erreur, vous faites retour en arrière. Et puis, il me semble que, en tout cas, ça irait plus vite, en tout cas, dans les bureaux de vote.
Définitivement, mais Paul, ce n'est pas les ressources qui ne sont pas, et la science, autrement dit, la technologie qui existe pour que ça soit possible. Il y a un manque de vouloir, mais surtout un manque d'argent, parce que le développement de systèmes fiables prend beaucoup de temps à vérifier et de faire systématiquement des essais pour s'assurer que le vote reste intègre. Mais malgré cela, même quand on parle des courses au leadership dans certains partis, ben ils vont avec l'essentiel, c'est-à-dire on présente des candidats, cliquez ici, rentrez le code à quatre chiffres peut-être, mais c'est très simple. Alors que si on aurait aussi l'identité nationale qui est promise depuis des années, ça simplifierait et ça aiderait à ce qu'on ait des élections franches.
Merci beaucoup, Steve. Au revoir.
C'est un plaisir.
Steve Waterhouse est un spécialiste en cybersécurité. Vous le connaissez bien, chargé de cours à l'Université
de
Sherbrooke.
Donc, c'est comme pas demain la veille.
Mais c'est parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle notre empreinte, là, comment on appelle ça déjà, notre code barre qui nous permettrait de nous identifier. Tu arriverais avec ton code barre, tu poserais ta carte directement sur, ça débloquerait le vote électronique. Et là, tu voterais, tu t'en irais. Ça irait deux fois plus vite pour voter.
C'est ce que je dis, c'est pas demain la veille.
C'est pas demain la veille.